Bonsoir, comment allez-vous? J'ai décidé de voyager léger. Fini les sacs à main qui pèsent une tonne, les grands paniers à la Jane Birkin ou les sacs à dos qui font guidouille. C'est drôle, on dit guidouille pour les filles et pas scoutouille pour les garçons. Fermons la parenthèse. Je voyagerai élégant avec juste un mini sac à la Jackie Kennedy. Je vous dis, j'ai décidé, pas du tout en fait. C'est une demande de mon entourage. Je n'ai pas répondu qu'ils avaient survécu tous parce que j'emportais, et dans emporter, il y a porter, de l'eau, des biscuits, des doudous, des pulls, des livres, de la crème solaire, des chapeaux, des impairs, du papier, des crayons, des pompes à vélo, et j'en passe. Je prendrai dorénavant le strict nécessaire. Donc, téléphone, masque, gel hydroalcoolique, clé, argent, carte de crédit, vitale, d'identité, de Vélib, petit carnet, stylo, modèle d'ampoule à racheter, caillou porte-bonheur. On ne peut pas faire moins. Et pourtant, ça ne tiendra pas dans ma pochette élégante. Qu'est-ce que je supprime? Le plus gros, le téléphone. J'ai essayé de te joindre toute la journée, pourquoi tu réponds pas? Le gel hydroalcoolique, c'est si facile d'ouvrir une porte avec son nez. Ah, les clés, ça c'est lourd, il n'y a qu'à les jeter. C'est une maison bleue adossée à la colline, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Sac en tissu, je demanderai des sacs en plastique aux commerçants, les baleines ne risquent pas de les manger, il n'y en a plus. Non, pas des sacs, des baleines. Mouchoir.
T'aurais pas un Kleenex par hasard, toi qui as un gros sac de poufias?
Ampoule modèle, ça prend de la place. Y'a toujours pas de lumière dans l'entrée! Caillou porte-bonheur, je vous l'offre. Bon, bah c'est réglé.
Oh, punaise, j'allais oublier les lunettes.
Elle les rangeait comment, Jackie Kennedy, dans sa pochette ultra plate, ses grosses lunettes?
Allô, je m'appelle Gaëlle, j'ai 9 ans. Et je voudrais savoir qui a inventé la lunette. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Juliette et je voudrais savoir qui a inventé les lunettes.
Bonjour, je m'appelle Ophélie. J'ai 8 ans et je voudrais savoir qui est-ce qui a inventé la loupe. Merci, au revoir.
Bonsoir Gaëlle, Juliette et Ophélie, la lunette, les lunettes, la loupe, Bruno Jacomi, responsable des collections au musée des Confluences à Lyon. Vous pouvez nous donner une idée, nous donner envie?
Je commencerai par répondre à Ophélie parce qu'elle demande qui est-ce qui a inventé la loupe. Et en fait, la loupe, c'est la grand-mère, si on veut, des lunettes, de tout le reste, si on
d'accord,
veut.
D'accord, c'est ce qui grossit, quoi.
Voilà. En fait, c'est au départ une lentille de verre. Si on l'appelle d'ailleurs une lentille, c'est parce que c'est pas plus gros que le petit légume. Et ça a la même forme.
C'est bombé.
C'est bombé des deux côtés, ou d'un seul côté. Et en fait, ce premier morceau de verre qu'on va réussir à tailler pour pouvoir faire grossir quelque chose, en fait, c'est un grand ingénieur et savant arabe qui, autour de l'an 1000, a écrit un traité d'optique et a fait plein d'expériences d'optique. C'est un petit peu le père de toute cette science que va être l'optique. Les premiers microscopes, en fait, qui apparaissent à peu près en même temps que la lunette, d'ailleurs, on est autour de 1600. C'est Galilée qui va utiliser des microscopes et tout ça. Ce qu'on appelle des microscopes simples, c'est des loupes avec une lentille toute petite, mais qui a un grossissement extraordinaire. Et d'accord, tous les grands progrès, on va les faire avec le microscope qui est une simple loupe grossissante.
D'accord.
Et c'est à cette époque-là, là, pour répondre à l'autre question, que l'on a la lunette de Galilée, qui est l'association de deux lentilles. Donc une qu'on met près de l'œil, l'autre qu'on met plus loin, et ça va permettre de grossir les images. La question était de savoir qui avait inventé la lunette. On sait qu'elle existe autour de 1600, mais on sait qu'elle doit apparaître en Hollande, mais on ne sait pas si c'est Hans Lippershey ou bien si c'est Zachary Janssen, les deux qui sont susceptibles de l'avoir mise au point. Ils habitent tous les deux à Middelbourg et bon, ils se bagarrent un petit peu, mais c'était dans l'air, si on veut, à un moment donné. Et donc, la lunette apparaît à ce moment-là. En fait, ce qui est amusant, c'est que d'abord, c'est quelque chose qui permet de grossir ce qu'on voit de l'autre côté de la rue ou ce qu'on voit à terre quand on est en mer. Et c'est Galilée qui, le premier, va avoir l'idée de lever sa lunette vers le ciel et d'observer, de dessiner même la lune. Et ça va être l'objet aussi de tout un débat. Pour terminer avec la question de Juliette qui disait qu'il a inventé les lunettes. Ben, les lunettes, en fait, elles apparaissent entre les deux. C'est-à-dire que les lunettes, qu'on appelle au début des besicles, ce sont deux lentilles que l'on met devant les yeux. et qui sont maintenus par une pièce métallique. Et là, on en a des représentations au milieu du XIIIe siècle. Et aussi loin qu'on remonte, en fait, ça se trouve en Italie. Et pas par hasard, c'est à Venise qu'on a les premières lunettes. Pourquoi ? Ben, c'est là-bas qu'on a les plus talentueux verriers à Murano qui savent maîtriser le cristal, le verre, etc. Donc, c'est là-bas que vont naître véritablement et se développer les lunettes dont tous les gens un peu fortunés vont vouloir se doter pour pouvoir lire les livres quand leur vue baisse.
Le grand savant arabe, qualifié de père de l'optique dont parlait Bruno Jacomi, était appelé Alhazen, A-L-H-A-Z-E-N. Quant à Bruno Jacomi, il était conservateur en chef et directeur scientifique du musée des Confluences à Lyon, et il a également été directeur adjoint du musée des Arts et Métiers à Paris. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants nous posent des questions et nous trouvons des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Agathe et j'ai 3 ans et demi, je voudrais savoir à quoi sert les moustaches du chien, du chat.
Bon, Agathe, on va prendre les deux. C'est intéressant les deux, 3 ans et demi, t'es pas en retard. Docteur Joël Dehas, vous êtes vétérinaire comportementaliste et vous avez écrit un livre sur les chiens et un sur les chats, tous deux édités chez Odile Jacob. Agathe s'intéresse à leurs moustaches.
Alors, chez le chat, ça c'est certain, les moustaches ont la taille du chat. Donc quand le chat est dans le noir, quand il est dans l'obscurité, qu'il n'y a plus rien comme lumière pour pouvoir voir, le chat va passer là où ses moustaches passent.
C'est génial.
Ah oui, c'est génial. Ensuite, elles sont sensibles, chez le chien et chez le chat, elles sont sensibles à la moindre pression, au courant d'air, à l'approche des objets. Donc la pression de l'air à l'approche d'un objet permet au chat et au chien de détecter qu'il y a un objet qui arrive, qu'il y a un obstacle qui est là. Donc c'est vraiment un système d'antenne à distance pour aller se repérer par rapport à des obstacles.
Ce qui expliquerait, docteur Joël Dehas, qu'un chien ou un chat aveugle se débrouille aussi bien, en dehors du fait que 4 pattes sont plus stables que 2, mais...
Il se débrouille très bien dans les lieux connus. Mais dans les lieux inconnus, il y a un petit peu d'hésitation. Mais il va pouvoir se débrouiller et explorer.
La moustache ne suffit pas si le lieu n'est pas connu.
J'ai vu un chat aveugle jouer avec une peluche de souris et la capturer et la remettre sous lui et la... Alors qu'il ne la voit pas. On n'aurait pas pu dire qu'il ne voyait pas. Tout ça à cause des moustaches. Il n'y a pas que les moustaches au niveau du nez ou de la face, il y a aussi des petites vibrisses au niveau des pattes. Ce qui permet au chat aussi de percevoir les micro-mouvements de l'air au niveau des pattes.
Ils ont quelquefois des trous où il n'y a pas de moustache. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est tombée?
Qu'elle est tombée.
Et ça ne sert à rien, c'est des trous à moustache où il n'y a pas de moustache, c'est pas voilà, des trous à autre chose.
La moustache va repousser. Il ne faut pas couper les moustaches, ni des chiens, ni des chats. Ils ont besoin de leur moustache. On leur enlève un sens essentiel.
Qu'est-ce qu'il y a des moustaches comme ça utiles à part les chiens et les chats dans les animaux?
Tous les carnivores.
Docteur Joël Dehas, est-ce que vous êtes sûr que les moustaches du chat, là où les moustaches passent, tout le corps passe? Parce que quand même, on voit des gros chats, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas s'introduire. Ils ont des gros corps qui ne peuvent pas s'introduire dans l'espace donné par les moustaches.
Il n'est pas normal pour un chat d'être gros. C'est pas normal. Dans la nature, il n'y a pas de gros chats. Et donc, dans la nature, là où les moustaches passent, le chat passe. Et même sans les moustaches, le chat arrive à se faufiler dans les obstacles, dans les creux, là où juste sa tête passe. J'ai vu rentrer un chat dans une bouteille, dont le diamètre du goulot était à peu près 12 centimètres, la tête du chat, le diamètre de la tête du chat. Et tout le corps du chat est passé dans la bouteille et ressorti de la bouteille. C'est incroyable.
Mais comment il fait? Il est élastique?
Il est élastique.
Je ne me retourne pas. Ça n'est plus mon problème, non. Je ne me retourne pas. Ça n'est plus mon problème, non. Tu ne me laisses pas le choix. Ça n'est plus mon problème. Dorénavant, il ne te reste que ma voix. Amen et au Wiedersehen. Ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème. Tu ne me je ne suis plus ton problème. Nous étions dans l'embarras, c'était tout un dilemme. Avec nos morts et nos vies sur les bras. Amen et auf Wiedersehen. Ça n'est plus mon problème.
Menfiltia, comme son nom ne l'indique pas, est un groupe français originaire de Nantes. Auf Wiedersehen.
Les petits bateaux sur France Inter.
Je vous l'ai dit il y a un instant, Les petits bateaux est une émission qui répond aux questions des enfants. Pendant le Covid, notre répondeur est fermé, mais il va bientôt réouvrir, je le sens.
Bonjour, je m'appelle Alice et j'ai 11 ans. Je voudrais savoir pourquoi on a tous le même nombre de gènes. Et si une personne n'en aurait pas le même nombre, qu'est-ce que ça pourrait lui faire ?
Belle imagination, Vincent Fleury, physicien, directeur de recherche au CNRS.
Alors la raison pour laquelle tout le monde a le même nombre de gènes, c'est à cause de la sexualité. Les animaux de notre espèce, et bon, tous les animaux à reproduction sexuée, se reproduisent par la fécondation d'une femelle par un mâle, et ce qui suppose que le nombre de gènes soit le même chez l'homme et chez la femme, puisque chacun donne la moitié de ses gènes pour reconstituer un capital génétique complet à chaque enfant. Il y a souvent des problèmes, et ça peut très bien arriver que le nombre de gènes ne soit pas le même chez un individu, et qu'il y ait plus ou moins de gènes. Alors intuitivement, on se dirait, s'il y a plus ou moins de gènes, comme ça va changer, disons, quantitativement quelque chose, il va y avoir plus ou moins de quelque chose. Dans certains cas, c'est vrai. Par exemple, la peau peut être plus ou moins noire en fonction du nombre de gènes correspondant au pigment de la peau. Si une personne est métisse, eh bien, elle va acquérir de son père ou de sa mère un gène, mais un seul gène pour le pigment de la peau, et il sera peut-être moins noir qu'une personne dont les deux parents auraient le pigment. Mais en réalité, dans beaucoup de cas, c'est pas comme ça que ça marche. Tout d'abord, il y a beaucoup de cas où il se passe rien. Alors, il y a beaucoup de cas où vous avez des gènes en trop, ça détruit tout. Le développement est impossible, vous pouvez rien faire avec ça. Alors ça, c'est pas non plus tellement étudié, parce que on sait pas quoi faire de ça. Et alors maintenant, il y a tous les cas intéressants de syndromes ou de maladies, ou de cas simplement où il y a un nombre de gènes anormal et où on observe des phénotypes, c'est-à-dire en fait des conséquences. Alors, l'exemple, c'est par exemple le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner, ce sont des jeunes filles qui n'ont qu'un seul chromosome X. Alors là, ce sont des jeunes filles qui, en fait, vont rester infantiles. Elles ne vont pas grandir, elles ne vont pas se féminiser. Donc, ces jeunes filles-là, elles sont traitées en les féminisant de force. C'est-à-dire, on leur fait des traitements d'hormones vers l'âge de 12-13 ans. Et elles deviennent des femmes tout à fait normales. Elles peuvent même avoir des enfants. Mais si on ne l'avait pas fait, elles seraient restées éternellement des petites filles. Vous voyez, donc c'est un peu étonnant. Et il y a d'autres cas, par exemple la cyclopie. C'est des gens qui ont un seul œil au milieu du front. Et la cause, dans certains cas, c'est la trisomie 13, le syndrome de Patau. Ils ont un chromosome en plus, le chromosome 13. Alors là, c'est un peu bizarre, parce que vous avez un chromosome en plus.
Et un œil en moins.
Et vous avez un œil en moins. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors là, il faut beaucoup étudier la question, des années et des années de travail. Et on s'aperçoit que avoir deux yeux ou avoir un œil, ce n'est pas avoir un œil en plus. Quand on a deux yeux, c'est parce qu'au cours du développement, en quelque sorte, le dos écrase la tête, et en écrasant la tête, il aplatit la zone qui doit devenir l'œil, et la zone qui doit devenir l'œil est aplatie, et s'étale comme de la guimauve de gauche à droite, et au lieu d'avoir un gros œil au centre comme Polyphème, on a deux petits yeux sur le côté de la tête. Et la chose qui est quantitative dans le phénomène, c'est la viscoélasticité de cette espèce de patte qui va donner l'œil. Donc si cette patte est trop dure, on ne peut pas la diviser en deux, et vous avez un gros œil au lieu d'avoir deux yeux. Donc les gens qui ont trop de chromosomes qui contribuent à la rigidité des tissus, c'est possible qu'ils naissent avec un seul œil au milieu du front.
C'est juste dingue. Cette réponse de Vincent Fleury est à réécouter sur franceinter.fr à la page des Petits Bateaux. Agathe Sanjouan, vous l'avez déjà entendu au Petit Bateau, elle est conservatrice archiviste de la Comédie Française.
Bonjour, je m'appelle Clémence. J'ai 8 ans. Je voudrais savoir si c'est vrai que le règlement de la Comédie Française est très très sévère. Merci, au revoir.
Alors Clémence, ça tombe bien, puisque Agathe Sanjouan, qui est à côté de moi, a écrit « Comédie française, une histoire du théâtre » édité au Seuil. Vous avez écrit ce livre avec Martial Poirson. Parlez-vous, Agathe, pour répondre à Clémence, du règlement de la Comédie française dans ce livre.
Alors Clémence, je ne sais pas si le règlement de la Comédie française est très sévère, mais en tout cas, il est vrai qu'il est contraignant, en tout cas pour les comédiens. Parce que pour le personnel, c'est un règlement assez classique d'entreprise qui obéit au code du travail tout à fait normalement. Pour les comédiens, en revanche, c'est vrai qu'il y a des particularités et que je vais essayer de t'expliquer un petit peu. Donc, quand le comédien signe son contrat, il est précisé qu'il doit toute son activité à la Comédie française. C'est-à-dire que la Comédie française, c'est sa priorité absolue. On peut l'appeler à n'importe quel moment, même les jours où il n'est pas censé jouer, pour remplacer un camarade qui est tombé malade, qui n'arrive pas à venir pour une raison ou pour une autre. Et il faut qu'il vienne et qu'il réagisse très vite. Et ça demande évidemment beaucoup de souplesse et beaucoup de dextérité dans la pratique de ce métier, puisqu'il faut pouvoir s'adapter, apprendre très rapidement un texte, voir le jouer avec le texte à la main pour une représentation au débeauté si jamais on n'a pas eu le temps. Tout ça, c'est évidemment une contrainte et c'est aussi un des plaisirs, je pense, des comédiens, de devoir réagir dans l'urgence.
Mais il ne peut pas aller en tournage à Mexico.
Exactement, c'est ça la plus grosse contrainte, c'est que pour avoir des activités extérieures, pour tourner dans des films, pour jouer dans d'autres salles, il faut demander un congé. On ne peut pas s'absenter comme ça sans rien dire à personne, même si on ne joue pas ce jour-là. Il faut demander une autorisation qui est donnée par l'administrateur général qui dirige ce théâtre et qui va composer avec tous les impératifs de la salle. C'est-à-dire, est-ce que le comédien est programmé? Est-ce qu'il peut s'absenter de Paris sans problème? Alors évidemment, on essaye d'arranger les comédiens. Si jamais le comédien joue un petit rôle dans une pièce de théâtre et qu'on le sait relativement à l'avance, on peut peut-être essayer de le remplacer, mais c'est quand même difficile parce que, par exemple, qui dit un remplacement dit qu'il faut changer le costume, qu'il faut parfois en refaire un. Donc ça mobilise les ateliers qui n'ont pas toujours le temps. En revanche, si le comédien interprète le rôle principal, ça va devenir évidemment très difficile de le remplacer, sauf si c'est pour une longue période, pour une reprise, on peut changer un rôle important dans une production. Mais du coup, les comédiens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont obligés de faire passer l'activité à la Comédie française en premier dans leur carrière.
C'est donc prestigieux et astreignant.
C'est effectivement prestigieux et astreignant. Alors prestigieux, c'est le cas aussi, évidemment, puisque quand on voit, par exemple, les comédiens qui jouent dans des films, il est toujours précisé un tel de la Comédie française. Et ça, c'est une obligation aussi qui est imposée aux producteurs des films. Une des règles qui peut être assez contraignante pour les comédiens, c'est qu'ils n'ont pas le droit de jouer à Paris en dehors des théâtres nationaux, par exemple. Et puis, l'administrateur peut aussi se prononcer contre une activité qui ne lui semblerait pas adéquate par rapport au statut de comédien à la Comédie française. Donc il y a quand même un droit de regard de l'administration du théâtre sur l'activité extérieure des comédiens. Et puis une dernière chose, c'est que les comédiens n'ont pas le droit de tourner dans des publicités. Comme les comédiens ont souvent des envies et sont des gens un peu fragiles et délicats, on essaye de faire notre possible quand même pour les autoriser à faire ce qu'ils veulent. Mais parfois, tout simplement, l'activité de la Comédie française ne le permet pas, puisque c'est une activité très dense. On a 3 salles de spectacle dans Paris. On a souvent un spectacle qui tourne en tournée. Donc, on a besoin des comédiens. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont une 60aine. Et on joue entre 800 et 900 représentations par an. Donc, c'est énorme.
Merci Agathe Sanjuan. Vous trouverez sur le site des Petits Bateaux le programme des spectacles en ligne de la Comédie Française. Et la Comédie Française a lancé le 11 février dernier une série de conférences, un espace d'échange en visioconférence donc entre les étudiants et les professeurs et les professionnels du spectacle vivant. Par exemple, vendredi 21 mai, le sujet de la conférence sera être comédien et auteur avec Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie Française. One more time. One more time. Daft Punk sur France Inter, où vous avez la bonne idée d'écouter les petits bateaux.
Je m'appelle Simon, j'ai 11 ans. Je voudrais savoir comment Napoléon est-il mort. Merci, au revoir.
Comment Napoléon est-il mort, demande Simon. David Chantrane, conservateur du musée de Brienne. Vous êtes l'auteur, avec Jean-François Coulon des Arts, d'un Napoléon, édité aux éditions du Rocher. Ce livre raconte les dernières années de Napoléon à Sainte-Hélène et sa mort.
Eh bien, sa mort, il est mort tout simplement dans son lit. Il a été envoyé à Sainte-Hélène par les Britanniques, mais avec l'accord des autres puissances coalisées de cette époque contre la France républicaine. Et il a été envoyé à Sainte-Hélène pour être en exil et être prisonnier d'une île qui était difficile d'accès, puisqu'on était à 2500 km des côtes africaines et 3500 des côtes du Brésil. Donc, c'était une prison naturelle. Et il est mort, eh bien, de l'ennui, de la mélancolie, des conditions aussi climatiques très difficiles, et surtout parce qu'il était éloigné de sa famille, de ses amis. Donc Napoléon, voilà, il vit avec une grande dépression, c'est un déprimé finalement de la vie, parce qu'il a fait tellement de choses, tellement actif, et bien là on le maintient dans une captivité terrible, donc il meurt, et aussi parce que il y a une sorte de d'ulcère qui va se transformer en cancer, et ce cancer va l'emporter. Et il meurt, alors que lui était un grand général, un grand chef militaire. Il meurt dans une petite maison, modeste maison, dans son lit de campagne, entouré de ses quelques amis qui l'entourent encore, mais c'est surtout des domestiques, le 5 mai 1821.
Il sera resté combien de temps à Sainte-Hélène ?
Il va rester à Sainte-Hélène 5 ans et demi, et ces quelques 2000 journées, il y en a à peu près un peu plus de 1900, et bien ces 2000 journées seront surtout des journées tristes, où il raconte ses souvenirs. Mais il a très peu de choses à faire pour un homme qui était si actif et qui avait tant fait pour l'Europe de l'époque.
Et il avait quel âge ?
Il est mort le 5 mai 1821. Alors pour se souvenir, il y a un petit moyen mnémotechnique très rapide. Il est mort donc en mai 1821, le 5 mai 1821. Et en prenant le 5, le 1, le 8, le 2, le 1, lorsqu'on les assemble, ça fait 51 ans, 8 mois et 21 jours.
C'est curieux, hein? J'ai adoré ce livre. Napoléon, les derniers témoins, raconte aux éditions du Rocher. Donc, les derniers témoins,
ce sont les hommes et les femmes qui ont accompagné, les femmes et les hommes qui ont accompagné Napoléon pendant sa dernière période de vie sur l'île de Sainte-Hélène. Et dans ses derniers témoins, il y a une adolescente, Betsy. Elle n'a que 13 ans quand Napoléon débarque à Sainte-Hélène. Elle est la fille de l'administrateur de la Compagnie des Indes. Elle est hyper intimidée par Napoléon, qui dans un premier temps occupera la maison de sa famille. Et puis elle devient assez vite rigolote, la jeune Betsy. Et comme elle parlait français, elle pouvait échanger avec l'empereur. Un jour, elle lui joue un morceau de harpe tout en chantant et il la félicite en lui disant que c'est ce qu'il a entendu de mieux comme air anglais. Et elle répond que ce n'est pas un air anglais, mais écossais. Et Napoléon rétorque que la musique anglaise est la pire que toutes. Et la pire de toutes. Et elle dira après que Napoléon était absolument charmant et que parfois il allait jusqu'à l'enfantillage et jusqu'à la malice avec elle. Donc, mercredi prochain, 5 mai, ce sera le bicentenaire de la mort de Napoléon. À propos d'anniversaire, voici Nadine Cretin, qui est également docteur en histoire et anthropologue, et elle est spécialiste justement des anniversaires.
Bonjour, je m'appelle Quentin. J'ai fêté mes 10 ans le 1er janvier. Je voudrais savoir pourquoi on met des bougies sur les gâteaux d'anniversaire. Merci.
Alors bonjour Quentin, voilà une question très intéressante parce que tout le monde souffle ses bougies ou les a soufflées un jour, mais par contre tout le monde ne sait pas pourquoi il y a des bougies sur le gâteau. Alors les bougies, si tu veux, le feu a toujours été un symbole qui était un symbole apprécié. Et ce qui était aussi important, c'est que la personne qui allait souffler ses bougies les souffle d'un coup. Donc on met autant de bougies que de nombre d'années. Et chaque année, ben, ça prouvait qu'il fallait avoir un souffle un petit peu plus fort. D'ailleurs, les Américains, je ne sais pas si tu le sais, mais les Américains, ils font un vœu avant de souffler leur bougie. Et s'ils les soufflent d'un seul coup, eh bien, ils se disent « le vœu va se réaliser ». Alors tu peux peut-être faire la même chose. Alors, pour en revenir quand même à ta question, tu vois, je vais te dire, l'anniversaire, eh bien, il n'a pas toujours été célébré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par exemple, dans l'Antiquité, au départ, les Grecs, eux, ne fêtaient pas l'anniversaire de la naissance, mais ils fêtaient l'anniversaire de la mort de la personne, et ils allaient déposer des cadeaux sur la tombe. Et puis, un jour, il y a eu un Grec qui s'appelait Hérodote, qui, lui, était un historien, mais surtout aussi un grand, grand voyageur. Et il a remarqué qu'au contraire, les Perses, eux, fêtaient leurs anniversaires. Et puis, quand est arrivé le christianisme, à ce moment-là, les pères de l'Église ont répandu l'idée que l'homme ne naissait en réalité que quand il mourait. Ça te paraît étonnant que je dise ça.
Il arrivait dans son autre vie.
Mais voilà, c'est quand il naissait au ciel, eh bien, et à ce moment-là, c'était les saints, on les célèbre toujours, en réalité, le jour de leur mort. Et puis, progressivement, avec l'humanisme, qui était au XVIe siècle, les protestants, avec la réforme, à ce moment-là, on s'est dit que l'homme, finalement, avait quand même un petit peu plus d'importance, et donc il a repris une identité, si je puis dire. Et à ce moment-là, pour célébrer donc l'identité, l'anniversaire, peu à peu, est arrivé dans les pays protestants. Et puis après, c'est arrivé au XIXe siècle dans toutes les familles. Et alors en France, souvent, au début du XXe siècle, eh bien, anniversaire et fête se confondaient encore. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui portaient le nom du saint du jour où ils étaient
absolument
nés. Et c'est depuis les années 50... que l'anniversaire avec les amis, ça s'est multiplié, parce qu'au départ, ça restait quand même fêté seulement dans la famille.
Podcaster, mes amis, ces petits bateaux, réécoutez-les, c'est gratuit. Ludovic Asselot, Marjorie Devoucoux, Eliane Gérard, Stéphane Combe, Jean-Baptiste Audibert, Noël Braham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. À suivre, Jérôme Garcin et le masque et la plume.